Chapitre 14. Théo.
J'en reviens pas.
Quand la vieille m'a appelé pour me dire que c'était OK pour la chambre, j'ai cru qu'elle s'était plantée de numéro. La dernière fois que j'ai eu de la chance, c'était un loto organisé par l'Amicale des chasseurs il y a bien 2 ou 3 ans. On zonnait avec Manon, Ahmed et Gérard, qui n'a pas l'âge de son prénom. On est passé devant la salle des fêtes. On a vu tous ces gens qui scrutaient des cartons avec des numéros comme s'ils cherchaient Charlie. Ça nous a fait envie. On a pris un seul carton pour nous quatre. Ça coûtait un bras. C'était le tout dernier tour, le plus gros lot. Il nous manquait plus qu'un numéro pour avoir le carton plein, le 63. Juste à côté de nous, une femme qui avait oublié ses sourcils chez elle attendait le 31. Elle avait une dizaine de cartons et même des jetons aimantés qu'elle ramassait avec un bâton magnétique. Nous, on avait des pois chiches, et ça nous a pas empêchés de gagner. Quand le 63 est sorti, on a sauté de joie comme si on avait remporté la finale de la Coupe du Monde. On courait partout, on embrassait tout le monde. Mais on s'est vite calmé quand on a su ce qu'on avait gagné. La gueule des autres quand on est rentré avec un cochon vivant, je pleure de rire chaque fois que j'y pense. C'est devenu notre mascotte. On l'a appelé Bordeaux Chenel. Je pense à lui parfois quand je rends visite à mes souvenirs. Mais j'évite parce que ma mère disait toujours que pleurer, c'est pour les faibles. Je sonne à l'interphone, la porte s'ouvre. Il y a des boîtes aux lettres et une petite cour avec des plantes et des poubelles. Je sais pas trop où je dois aller. Un type sort sa tête d'une fenêtre du rez-de-chaussée et me demande s'il peut m'aider. Je sais même pas comment s'appelle la proprio. Je vais chez une dame avec un chignon. Il claque la fenêtre et quelques secondes plus tard sort par une porte rouge un chat dans les bras. Il a été hyper rapide. On dirait qu'il s'est téléporté. Il me dit qu'il s'appelle Victor Giuliano, qu'il est le gardien de l'immeuble. Il a l'air au courant de mon arrivée. Madame Perrin habite au 3e. L'escalier est par ici. Il m'indique le chemin, je le remercie et je trace, mais il me retient par le bras. C'est une gentille dame, vous savez. Ok. Il me lâche pas. Il faut pas lui faire de mal. Ah, vous voulez dire que je peux pas l'étouffer pendant son sommeil et manger son cerveau? Trop dommage. Victor lâche mon bras et fait un pas en arrière. Je me sens obligé de préciser que c'est de l'humour, que j'ai jamais aimé la cervelle. Il ricane en assurant qu'il avait compris. Je fais semblant de le croire, même s'il a le regard d'une dinde qui croise un boucher la veille de Noël. La vieille dame ouvre la porte quand j'arrive au 3e. Elle me demande d'attendre sur le paillasson et pose devant mes pieds 2 grands rectangles en tissu. Maintenant, vous pouvez entrer. J'enjambe les rectangles et je me retrouve dans une petite entrée. Elle m'empêche d'aller plus loin. Mettez les patins, s'il vous plaît. Les quoi ? Elle pointe le doigt vers les 2 morceaux de tissu et m'explique que ce sont des patins d'appartement pour protéger le parquet. Soit vous gardez vos chaussures et vous glissez dessus, soit vous vous déchaussez. C'est le parquet d'origine, je l'entretiens, mais il s'abîme vite. Vous n'avez pas de sac ? Je fais non de la tête et je pose mes pieds sur ces trucs, puis je la suis vers ma nouvelle chambre en glissant un pied, puis l'autre. Appelez-moi Théo Candeloro. La chambre est petite et pas très lumineuse, mais ça fera l'affaire. Il y a un lit, une place, une commode, un bureau et un tapis blanc apparemment en poil de cul de Père Noël. Je patine jusqu'à la fenêtre. Elle donne sur la cour. Je vous laisse prendre possession des lieux, me dit-elle en refermant la porte. Je vous ferai visiter le reste après.
Enfin seul.
Je balance mes baskets et me laisse tomber sur le lit.
Je peux pas m'empêcher de sourire.
Je dois avoir l'air con, mais si je souris pas aujourd'hui, je vois pas quand.
J'ai un chez-moi. J'ai un chez-moi.
J'en reviens pas. Si j'avais plus de place, je ferais un triple lutte piqué. J'étais sûr que la meuf de la boulangerie m'avait grillé la place. Elle doit avoir le seum, mais c'est le karma. Elle a essayé de me passer devant, elle a pas eu pitié pour moi. Je vais pas en avoir pour elle. J'attrape mon téléphone pour l'annoncer aux copains, mais au dernier moment, je change d'avis. Je leur ai pas donné signe de vie depuis mon départ. Je vais pas les narguer alors qu'ils sont encore là-bas. Je préfère envoyer un message à Bella. J'ai pas de nouvelles depuis hier. D'habitude, on s'écrit tout le temps, dès qu'on peut. Le soir, ça peut durer des heures quand elle a rien à faire. Elle s'occupe de son père malade, en plus de ses études d'histoire de l'art et d'un job de serveuse. On a plein de points communs. Elle m'a confié des choses qu'elle avait jamais dites, alors je me suis mis à lui parler de mes secrets aussi. J'ai l'impression qu'elle me comprend vraiment. Hier, je lui ai envoyé une photo de moi. Elle insistait depuis un moment. J'étais pas bien quand le message est parti. J'avais peur qu'elle me trouve moche. Mais elle m'a dit « Je t'aime ». Ça m'a fait un drôle de truc dans le cœur. On me l'a pas dit souvent. Je savais pas qu'on pouvait s'attacher à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Salut Bella, ça va? Devine d'où je t'écris. Cœur. Au moment où je l'envoie, j'entends une sonnerie dans l'appartement. Quelques minutes plus tard, deux voix. J'ouvre la porte et je passe une tête. Une femme est en train de poser ses pieds sur des patins. Quand elle lève les yeux, je la reconnais. La meuf de la boulangerie, suivie d'une valise verte.